OK, on va commencer notre deuxième leçon dans notre série qu'on a commencé la semaine dernière sur la crainte de Dieu. On avait fait une leçon un peu générale la semaine dernière. Cette semaine, on va regarder un petit peu, on va commencer la première partie, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu. On va voir que ça comprend deux aspects principaux. Cette semaine, on va décrire le premier aspect. Et dans les semaines qui vont suivre, on va développer le deuxième aspect. Alors, dans les Écritures, la notion de la crainte de Dieu vraiment contient deux aspects complètement différents. Le premier aspect, ça a un rapport avec la peur, avec la terreur, avec l'épouvante et la frayeur. On voit que c'est vraiment le côté d'être saisi de peur devant l'apparition de Dieu ou la pensée qu'ils vont être jugés, etc. Le deuxième aspect a un sens qui développe davantage l'idée de respect, d'honneur, de grande admiration et d'émerveillement. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va plus développer ce côté-là, qui est plus le côté pour les chrétiens. Mais on va voir que même dans le premier aspect, il y a des choses qu'on se doit de savoir aussi. Alors, on va faire le premier aspect aujourd'hui. On va aujourd'hui établir que le premier aspect de la crainte de Dieu, celui de la peur, de la terreur, d'épouvante et de la frayeur, est principalement, je dis bien principalement ressenti par les païens ou les inconvertis. Alors, la peur de Dieu qu'ont les méchants proviennent de leur conscience, de leur conscience pécheresse, de leur conscience corrompue, et qui les condamnent eux-mêmes, comme les Écritures le disent. Ils sont terrifiés par l'idée qu'ils vont se présenter devant Dieu, qui va être leur juge, et un juge qui est impitoyable, un juge qui est omniscient, un juge qu'eux considèrent comme étant leur ennemi. Et comme ils aiment leur péché, les inconvertis ne veulent pas, bien entendu, les abandonner et ils vivent dans une peur permanente du jugement. On me souvient d'avoir lu dans les Écritures, c'est la terreur de l'homme, la mort. Souvent, on entend des inconvertis, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, puis quand il est question de la mort, ils sont terrorisés. Pourquoi ils sont terrorisés? Ils sont terrorisés parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui va les juger. Même si des fois, ils disent « Ah, moi, je ne crois pas à ça, on meurt, après ça, on s'en va dans le trou. » Il y en a plusieurs qui disent ça, mais d'un autre côté, pourquoi ils ont peur? S'ils s'en vont dans le trou, de quoi ils ont peur? Ils ne devraient pas avoir peur. Alors, on va développer aujourd'hui vraiment juste le premier aspect de la crainte de Dieu qui est dans la Bible et qui contient l'idée, bien, c'est tout des, dans le fond, des synonymes, la peur, la terreur. Parce que la terreur, on va définir chacun des quatre termes, on va voir que c'est présent définitivement les quatre aspects qu'on parle là dans les Écritures. Alors, la peur, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'a jamais ressenti l'émotion qu'est la peur. C'est une émotion qui est commune à tous les êtres humains. C'est cette émotion qui accompagne normalement la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Vous avez déjà fait un accident, là. Moi, je n'ai déjà fait un. Puis, à un moment donné, j'ai pris le champ, comme on dit, pas le champ, mais le fossé. Puis, c'était vraiment un fossé très profond. Puis, je m'en venais à peu près 70 000 à l'heure. Moi, dans ma tête, là, quand j'ai glissé dans le chemin, il y en a qui avaient du monde, puis au printemps, qui avaient jeté de la neige sur la route. Puis, ça faisait un bon tas, là. Et quand je suis arrivé dedans, j'ai comme complètement perdu le contrôle de l'auto, puis il est rentré dans le champ, il est tombé dans le fossé. Et là, je me voyais m'en venir sur un gros tuyau, tu sais, les gros tuyaux qu'il y a qui traquent. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, Seigneur, je meurs. T'assures. Puis j'ai sorti du champ, j'ai rien eu du tout. Alors, c'était pas mon heure, comme on dit. Mais il reste que je sais c'est quoi la peur, parce que dans ce temps-là, comme on dit, le cœur te monte dans la gorge, tu as vraiment peur. La terreur, elle, c'est une peur, mais qui est extrême et qui te bouleverse et qui te paralyse. Quand on dit quelqu'un est mort de peur, il a tellement peur qu'il n'est paralysé. On parle de, c'est plus que de la peur. C'est de la peur extrême. L'épouvante, je pense souvent l'expression qu'on disait, il y a un cheval dans le temps, que les chevaux passaient dans les rues. Puis des fois, il y avait un cheval, pour quelque raison que ce soit, il a entendu un bruit ou il a eu peur pour quelque raison que ce soit. Mais il disait qu'il partait en l'épouvante. Et là, il voit plus clair, vraiment l'épouvante, c'est vraiment une peur violente. Et c'est une peur aussi violente et soudaine qui est causée par quelque chose d'extraordinaire ou de menaçant, du moins dans l'esprit de celui qui la vit. Puis, il y a la frayeur, qui est une peur qui est passagère, qui est causée par un danger réel. Alors, la Bible, est-ce qu'elle nous enseigne que les hommes peuvent éprouver ces différentes formes de peur quant à leur rencontre avec Dieu? On parle d'un être humain qui va rencontrer Dieu et qui va vivre ces émotions-là. Quelque part, on se demande, coudonc, c'est-tu normal? Est-ce que les Écritures décrivent véritablement cette sorte de peur-là? Alors, bien sûr, cette sorte de peur-là, de l'être humain qui s'apprête à rentrer dans la présence de Dieu pour être jugé à sa mort, va principalement être éprouvée par les hommes qui ne sont pas sauvés, bien entendu. Adam l'a éprouvé après sa chute. Parce qu'on lit dans Genèse 3, versets 8 à 10, là, il parle d'Adam et Ève, il dit « Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint ou j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Il entendait la voix de Dieu avant de tomber dans le péché. Il n'avait pas peur de Dieu d'aucune façon. Et là, il entend juste la voix de Dieu puis il va se cacher. Alors quelque part, on voit que l'homme qui est tombé dans le péché va ressentir cette crainte de Dieu-là au moment où il va soit rencontrer Dieu ou soit être, après sa mort, il va rencontrer Dieu pour être jugé. Voyez-vous, là, j'ai parlé, le procurateur de la Judée, Félix, l'a éprouvé dans Actes 24, versets 24 et 25. On se souvient dans le passage, c'est Paul qui parle devant le procurateur et là, il parle du jugement dernier. Et à quelque part, c'est un inconverti. Mais la peur, il pogne la peur. Ça dit dans le verset 24. Et quelques jours après, Félix étant arrivé avec Drusille, sa femme, qui était juive, fit venir Paul et l'entendit sur la foi au Christ. Et comme il discourait sur la justice et la tempérance et le jugement qui est à venir, Félix, tout effrayé, répondit, « Pour le présent, retire-toi, et quand j'en aurai trouvé le temps, je te ferai appeler. » Alors, il entendait parler du jugement à venir, et là, il a eu vraiment peur. Parce qu'à un moment donné, Paul devait être très convaincant. Il lui dit, « Si tu décèdes dans cet état-là, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. » Peut-être qu'il a décrit un petit peu plus l'enfer. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais il a eu peur. Les nations vont être terrorisées par l'apparition de l'Éternel. Dans Ésaïe, au chapitre 2, les versets 8 et 10, et le verset 19 et le verset 21. Et son pays est plein d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont façonné. Mais l'homme sera humilié, et le grand sera abaissé. Tu ne veux pas leur pardonner. Entre dans le rocher et cache-toi dans la poussière, de devant la terreur de l'Éternel et de devant l'éclat de sa majesté. » Et dans le verset 19 à 21, « Et l'on entrera dans les cavernes des rochers et dans les grottes de la terre, de devant la terreur de l'Éternel et de devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Alors, on parle de terreur à deux endroits. On parle de quand ils vont se cacher dans les trous, dans les cavernes. Ils vont chercher à éviter la rencontre avec le Seigneur. Et dans le verset 20, ça dit « En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qu'il s'était faites pour les adorer aux taupes et aux chauves-souris. Et l'on entrera dans les fentes des rochers et dans les cavités des pierres, de devant la frayeur de l'Éternel et de devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Quelque part, c'est que ça démontre que quand Dieu apparaît en jugement, là, les hommes réalisent que là, c'est ce vers quoi ils s'en vont. Ils ont tellement peur qu'ils vont se cacher dans les trous de la terre, ils vont se cacher dans les cavernes, ils vont se cacher de partout. Les païens, durant les jugements qui vont précéder la deuxième venue, qui est décrite dans l'Apocalypse, vont aussi éprouver cette peur-là. Apocalypse 1, verset 7. « Le voici qui vient avec les nuées. » Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Ça, c'est un signe qu'ils vont vraiment avoir peur. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Et les rois de la terre, et les grands, et les riches, et les commandants, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16, « Et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et nous cachez de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de sa colère. Et qui est-ce qui peut subsister? » On a aussi dans Apocalypse 11, verset 13, « Et à cette heure-là, il se fit un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. Et il périt dans le tremblement de terre 7 milliers de noms d'hommes, et les autres furent saisis de crainte et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » On a également dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant la bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à grande voix, « Craignez l'Éternel et lui donnez gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. » Bien entendu, le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a décrit aussi de quelle façon les inconvertis vont se comporter lors de sa deuxième venue. Dans Matthieu 24, versets 27 à 31. « Car comme l'éclair sort des régions de l'Orient et apparaît jusqu'en Occident, il en sera aussi de même de l'arrivée du Fils de l'homme. Car où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Or, aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une grande voix de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'un des bouts des cieux jusqu'à l'autre bout. » Maintenant, on peut se demander comme question, est-ce que les croyants peuvent aussi ou devraient avoir cette crainte de Dieu-là qui demeure en eux jusqu'à un certain point? Alors, j'ai trouvé un texte intéressant. On va essayer de le faire rapidement. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que, comme croyants, on ne devrait n'avoir aucune forme de cette sorte de peur-là pour nous. Mais on va voir que les Écritures, c'est pour ça qu'ils enseignent. Alors, il sert du verset de 1 Jean, chapitre 4 et verset 18. Et ils disent, parce que le verset 1 Jean 4, 18 dit, « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, parce que la crainte suppose une punition, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. » Alors, le contexte, il faut toujours regarder qu'est-ce que Dieu dit, mais dans son contexte. Le chapitre 4 de 1 Jean parle de l'amour, parle de la peur des hommes, et non pas de la peur de Dieu. Et le verset qui est en train de dire, c'est que plus tu vas craindre Dieu, moins tu vas avoir peur des hommes. Alors, c'est dans ce sens-là, l'amour chasse la crainte. Autrement dit, plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas être conscient de qui il est, moins tu vas avoir peur, même au moment de la mort. Et l'histoire de l'Église, on voit des innombrables exemples de ça, des hommes, des femmes qui ont été emmenés au bûcher ou toutes sortes de choses et qui sont morts, qui n'ont même pas peur. C'est pas normal qu'on n'ait pas peur dans des circonstances comme ça. C'est qu'est-ce qui les soutient? C'est la grâce de Dieu qui permet qu'ils puissent mourir dans le courage. On comprend davantage le sens de 1 Jean, chapitre 4, verset 18, si on le met en parallèle avec d'autres versets du Nouveau Testament, comme 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16 dit, « En ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. » On a dans Matthieu 18, c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit, « Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire mourir et l'âme et le corps dans la géhenne. » Il parle à ses disciples. Puis il dit de craindre Dieu parce que c'est de lui que tu dois avoir de la crainte et non pas des hommes. Alors ça, c'est intéressant comme... Alors cette peur-là, est-ce qu'elle se doit d'être éprouvée par les croyants? Mais elle est éprouvée par les croyants, mais les croyants qui l'éprouvent, au moment qu'ils l'éprouvent, en même temps se rappellent qu'ils ont reçu la grâce de Dieu, et ce qui fait que cette terreur-là et cette peur-là s'évanouit, s'en va. Autrement dit, on va vous donner des exemples. Matthieu, chapitre 7, versets 19 à 21. « Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ainsi donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y en aura beaucoup qui me diront en ce jour-là. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait par ton nom beaucoup d'actes de puissance? Et alors je leur dirai ouvertement. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites les œuvres de l'iniquité. » Est-ce qu'il y a eu des exemples dans les Écritures, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui démontrent que les hommes, même régénérés, ont connu cette sorte de peur-là, mais qui étaient adoucis soit parce que Dieu les rassurait, ou soit qu'eux se rappelaient qu'ils avaient reçu la grâce de Dieu et que ça faisait en sorte qu'elle était moins pire. On a l'exemple de Moïse, par exemple, dans Exode, chapitre 3, versets 2 à 6. « Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et il vit, et voici, le buisson était tout brûlant de feu, et le buisson n'était point dévoré. Et Moïse dit, « Je vais me détourner pour voir cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se brûle pas. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, et il dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici, déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Voyez-vous, c'est une des grandes figures de la foi dans la Bible, Moïse. Et quand il y a eu cette apparition-là, il a vraiment eu peur. C'est Dieu qui le console, c'est Dieu qui lui dit... je ne sais pas pourquoi ça... Et Hébreux, chapitre 12 aussi, versets 18 à 21. « Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on touche avec la main, ni d'un feu brûlant, ni d'un tourbillon, ni d'une obscurité, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette. ni d'une voix de parole telle que ceux qui l'entendirent refusèrent que la parole leur fût adressée. Car ils ne supportaient pas ce qui était prescrit. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou transpercée d'un trait. Et ce qui apparaissait était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». C'est quelle occasion, ça? Quand Dieu a donné le décalogue, le 10 commandements, Moïse dit lui-même « Je suis épouvanté ». On a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'était l'épouvante? « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Ça veut dire qu'il en tremblait littéralement. David l'a éprouvé dans le psaume 119, verset 20. Il dit « Ma chair frissonne de la frayeur qu'elle a de toi, et je crains à cause de tes ordonnances. » Gédéon l'a éprouvé. Juges 6, verset 22, 23. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, dans le contexte, on sait que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est une apparition de Jésus-Christ. Il dit, c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, « Hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains pas, point, tu ne mourras pas. » Il était sûr qu'il mourrait parce qu'il croyait d'avoir vu Dieu. Et c'est le Seigneur qui le rassure, comme on le voit. Quand on a reçu la grâce, même si la peur qu'on a est semblable à celle des inconvertis, mais c'est la grâce de Dieu qui vient te rassurer. Manoah, le père de Samson, lorsqu'il se fit annoncer par une théophanie, encore une fois l'apparition de Jésus-Christ, la naissance de Samson, dans Juges 13, versets 21-23, et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Certainement nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'eût pas pris de notre main l'holocauste et l'offrande, et il ne nous eût point fait voir toutes ces choses, et au temps où nous sommes, il ne nous eût pas fait entendre les choses que nous avons entendues. » Voyez-vous, c'est eux-mêmes qui se rassurent. Les autres sont sûrs de mourir, mais la femme a dit, « Voyons, s'il avait voulu nous faire mourir, on serait déjà morts. » Alors, c'était simplement l'ange de l'Éternel qui annonçait qu'il enverrait une personne pour les libérer de leurs problèmes, de leurs persécutions, et que ça serait Samson. Paul conseille la crainte de Dieu à des chrétiens. Romains 11, versets 17 à 22. Que si quelques-unes des branches furent retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, tu fus hanté en elles, et devins participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches, que si tu te glorifies ainsi, tu oublies que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Diras-tu donc, les branches furent retranchées afin que je fusse hanté? Bien, c'est par l'incrédulité qu'elles furent retranchées. Tandis que toi, tu es debout par la foi, ne t'enorgueillis pas, mais crains. Car si Dieu n'épargne pas les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui tombèrent, et bonté envers toi, si tu demeures en cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais bien plutôt en mon absence, accomplissez votre salut avec crainte et tremblement. » Il parle à des chrétiens, là. « Accomplissez votre salut avec crainte et tremblement. » Alors, quelque part, cette sorte de crainte-là qu'on se doit d'avoir envers Dieu, on se doit de l'éprouver encore parce que, dites-vous une chose, le Seigneur lui-même dit que dans les églises, il y a un mixte de convertis et d'inconvertis. Alors, s'il y a des inconvertis dans les églises, c'est normal qu'ils se fassent rappeler ces choses-là parce que s'ils ne les font pas rappeler, ils vont dire, « Hey, on l'avait le pasteur, il ne nous a même pas rappelé qu'on nous, on pouvait être inconvertis. » Et les disciples, le Seigneur Jésus-Christ recommande la crainte de Dieu à ses disciples, quand il dit « Et ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire mourir et l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, les applications qu'on va faire du texte aujourd'hui, tous les êtres humains qui n'ont pas reçu ou qui ne recevront pas la grâce salvatrice de Dieu, du Seigneur, avant de décéder, ont toutes les raisons du monde de connaître et d'expérimenter terriblement la crainte de Dieu dans sa dimension de peur, de terreur, d'épouvante et de frayeur. Autrement dit, les inconvertis ont véritablement raison d'avoir cette peur-là. On pourrait vous raconter d'innombrables histoires de personnes d'inconvertis qui, avant de mourir, ont été pris de peur déraisonnable et ils sautent sur leur lit, ils hurlent, ils crient parce qu'ils savent, Dieu permet probablement qu'ils voient l'endroit où ils s'en vont et là, c'est plus le temps, il est trop tard. Mais moi, j'ai lu plusieurs histoires de ce style-là. Apparemment, qu'il y a des affaires que ça fait vraiment. T'as vraiment peur juste de les voir crier. Parce que là, tu sens qu'ils sont conscients de l'endroit où ils s'en vont, juste avant qu'ils crèvent. À quelque part, les inconvertis ont raison d'avoir cette crainte de Dieu-là. La deuxième application, c'est que les Saintes Écritures nous enseignent que cette forme de crainte demeure, même chez les croyants, on en a vu plusieurs, là. Exemples, je suis loin de les avoir toutes vidées, là. Il y en a plein dans les Écritures. La différence avec la crainte des païens, c'est que lorsqu'elle se manifeste, les croyants sont rapidement rassurés divinement qu'ils sont graciés et exemptés du jugement à cause de leur foi en la merveilleuse et glorieuse personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est plus qu'elle n'est plus là, c'est qu'elle est encore là, mais c'est que Dieu te rassure, soit c'est lui-même qui te rassure, ou c'est quelqu'un d'autre qui te rappelle que tu es gracié et que tu ne subiras pas le châtiment et s'en aller à l'endroit où ceux qui ne sont pas convertis vont aller. Alors implorons le Seigneur de nous faire la grâce merveilleuse, de le craindre et d'ainsi profiter des bénéfices considérables qui en découlent et pour